gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité a fait partie du groupe québécois le plus populaire des années 60. Il nous a d'ailleurs déjà fait l'honneur de sa présence à l'émission pour nous parler de ses années folles et innocentes, où la musique imprégnait la jeunesse de rythmes nouveaux. Il nous revient cette fois pour nous raconter une histoire assez fantastique, vous allez le découvrir, d'une musique qui ressurgit au gré du temps, passée dans l'oubli. Avec nous, grand plaisir d'accueillir Jean Bond, qui fut du trio Les Baronets.
Allô, allô, bonjour.
Bonjour, Jean.
Ça me fait plaisir d'être ici ce soir.
Ben, le plaisir, il est vraiment partagé, d'autant que vous allez nous raconter une histoire assez abracadabrante.
Ah oui, oui.
Et assez fantastique aussi.
Oui, oui, c'est unusual, comme on dit en anglais. Ça se voit pas tous les jours, cette histoire-là.
Alors, vous avez publié un disque il y a déjà quelques semaines. Mais c'est un disque assez particulier. Parlez-nous-en un petit peu.
L'histoire est... C'est bizarre comment le... Moi, je crois au destin terriblement. Alors, je suis dans le hall d'entrée de CGMS, et puis un monsieur assis face à moi. Alors, évidemment, je parle anglais dans ce temps-là, et j'ai une demande, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, il me raconte, je suis dépisteur pour une compagnie américaine.
Là, on est en quelle année, là?
On est en 65, fin 64, 65. Alors, il me dit, je suis dépisteur, puis je recherche un groupe de chanteurs, tout ça. Alors, il ne sait pas qui je suis, tu sais. Alors, je dis, ah oui, bon, c'est intéressant, ça.
Parce qu'à l'époque, vous étiez déjà très populaire avec le groupe Les Baronets.
Ah, on était dans le peak time, le plus populaire de cette époque-là. Alors, j'ai dit, bien, on va faire une chose. Je dis, on ne peut pas tellement parler ici dans le hall d'entrée, mais venez avec moi au restaurant, moi, vous expliquer quelque chose. J'ai dit, je pense que je peux vous aider. Donc, on est sorti dehors, et par hasard, il y avait, c'était souvent ça, c'est GMS, il y avait toujours 25-30 petites filles qui étaient à la porte. Alors, je sors avec lui, puis là, il saute sur moi, puis il me demande des autographes, tout ça. Dans ce temps-là, les jeunes, ils nous sautaient dessus, c'était vrai aussi.
Ouais, on dit que même avant, Jean-Roger avait eu droit à une escorte policière quand il était maître de cérémonie à la Casa Loma.
Ah oui. On faisait jeunesse aujourd'hui, on sortait, puis il fallait se coller sur le long du mur. Et puis le temps qu'on écrivait les autographes, ils nous volaient nos boutons de manchette. Ou bien il y en a un autre qui avait des ciseaux pour nous couper à la cravate, toutes sortes de choses comme ça. Alors je sors à la porte et évidemment je signe des autographes. Là je vois qu'il y a un air drôle. Je dis, il doit être connu, lui. Et on s'en va au restaurant. Puis on arrive au restaurant et... Là, encore là, je parle avec lui et il y a des gens qui se lèvent debout, viennent me demander des autographes, tout ça. Fait que là, finalement, il me dit, ben t'es qui, toi? Ben, je sais ça, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir au restaurant, parce que moi, je fais partie d'un groupe, puis heureusement, ce groupe-là est bilingue. J'ai dit, Pierre est natif de l'Ontario, à London, alors il a été école anglaise. René est natif d'une famille syrienne qui passe leur temps à parler anglais et français. Et moi, qui est un curieux, je suis pas capable d'accepter d'entendre une conversation anglaise sans savoir ce qu'ils disent. Alors, j'ai appris l'anglais le plus vite que possible. Alors, j'ai dit, on serait le groupe que tu recherches. Et ça a commencé comme ça. Je lui ai donné le numéro de téléphone de notre gérant, qui s'appelait Ben Key à l'époque, et communiqué avec Ben. Ils ont signé un contrat. Et on était à New York faire tout un album au complet.
Enregistrer un album complet pour le marché américain.
Oui. Et ça vient de loin, que j'ai découvert il y a quelques années, parce que je lis beaucoup, moi. Alors, j'ai toujours un ou deux livres à côté de mon lit. Alors, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « The Biography » par Mike Spitz, mm-hmm. qui est sur les Beatles.
Le nageur?
Non. Mike Spitz, c'est un écrivain anglais qui écrit « The Biography », la biographie des Beatles. Alors, je suis en train de lire ça, puis parmi tous les livres que j'ai lus sur les Beatles, je pense que c'est le meilleur. Le gars, il est vraiment, vraiment documenté, puis on voit qu'il les a connus. Alors, c'est marqué dans ça que Brian Epstein, quand les Beatles ont sorti leur disque en Angleterre, ça a été un succès énorme. Alors, EMI Londres l'a envoyé à New York, et le gars à New York, il dit c'est du vieux rock'n'roll. Alors, le disque est resté, est demeuré sur la tablette longtemps. Et je vais en venir après à nous autres. Mais là, le disque est sur la tablette longtemps, une couple de mois. Et pendant ce temps-là, ce qui se produit, c'est que Epstein, qui est un peu frustré parce que EMI ne sort pas le disque à New York, s'en va à New York et fait le tour de des compagnies de disques. Il laisse des démos. C'était la mode dans ce temps-là. Laisse des démos, au moins deux chansons à chaque endroit. Alors, il y a six compagnies qui ont sorti le disque des Beatles en même temps, quand les Beatles ont été populaires.
Oui. Ouais.
Mais entre-temps, ça reste comme ça. Les compagnies disent, ben oui, on va y penser, on va te rappeler. Il y en a un qui a dit oui, c'est VJ. Il dit, appelle-moi, puis il dit, on va faire un contrat, puis je les prends, les Beatles. Alors, Epstein a téléphoné trois fois à New York, au bureau de ce monsieur-là, dont je me rappelle, il faudrait que je me documente pour savoir son nom, en tout cas. Il appelle là, et la secrétaire répond, il est à Las Vegas, première fois. Deuxième fois, ah oui, il est à Las Vegas. Troisième fois, il est encore à Las Vegas. Alors, lui, il a allumé, il a dit, oh, c'est probablement un joueur, il passe son temps à Las Vegas. Alors, il a cancellé, il n'avait rien signé, mais il a cancellé quand même l'entente, verbalement.
Avec VJs.
Avec VJs. Et là, le temps se passe pendant ce temps-là. Et une autre anecdote très intéressante, c'est que il y a une femme en Angleterre qui a entendu « She loves you, but I want to hold your hand », envoie à une de ses amies à Washington le disque. La femme à Washington écoute le disque, elle trouve ça extraordinaire. Et ça donne qu'elle connaît un disc jockey à Washington. Elle s'en va lui faire écouter ça. Lui, il met ça sur la table tournante, parce que tu sais comment ça fonctionnait dans ce temps-là. Hein? On rentrait dans un poste de radio comme chez un dépanneur, là, tu sais. Alors, il dit, formidable, il met ça, et le téléphone se met à sonner, ça n'arrêtait plus. Alors, le disc jockey a téléphoné à EMI New York, puis là, il a dit, « Êtes-vous fous, vous autres? » Il dit, « Ce disque-là, c'est effrayant. C'est une peur tellement que la popularité, ça arrive vite. » Alors là, c'est là que New York a décidé de sortir les Beatles. Mais je vais vous raconter d'autres choses à propos de ça.
OK, mais tout ça pour dire que vous autres, vous avez enregistré un disque en 65 avec VJs. On pourra voir les détails après. Mais ce disque n'est jamais sorti. Il vient tout juste d'être publié.
C'est ça. Alors, 50 ans plus tard.
50 ans plus tard, juste pour se mettre l'eau à la bouche, on va écouter un extrait de ce bel album qui s'appelle « Les Baronets, la vie en rose ». La première chanson, quel est le titre?
« That's the way love happens ». Oui, « That's the way love happens ».
Way
On vient d'entendre le son d'il y a 50 ans, mais qu'on n'a jamais entendu auparavant.
Oui, oui, oui.
C'est vraiment inédit, là.
Vraiment inédit. Bien, c'est ça que j'en venais tout à l'heure, c'est que là, cette dame-là, que je vous racontais, qui a vu le disque jockey, qui a décidé EMI à New York, qui s'appelait Capitol, mais la maison mère, c'était EMI. Alors, a décidé de sortir le disque et quelques semaines plus tard. Mais nous, entre-temps, on est dans le mois de décembre. Tony Roman nous appelle puis il dit, venez au bureau, parce qu'à chaque fois que les compagnies recevaient des albums ou des disques, on pouvait aller chez Capitol, London, RCA. Et là, on écoute le disque des Beatles, on est fou, 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 là, c'est le cas de dire, c'est fou, mais c'est tout.
Ouais.
La chanson « Hold Me Tight », qui était la deuxième chanson sur l'album Beatlemania.
Et qui est devenu « C'est fou, fou, fou », là.
C'est ça, « C'est fou, mais c'est tout
oui. ».
Et on écoute ça, on est en studio, on fait les paroles le soir même, on est en studio le lendemain, c'est mixé le lendemain soir, et la journée suivante est en onde à CGMS.
Ça sortait à un rythme fou à l'époque.
C'était la folie furieuse. Tout ça pour en venir que les gens nous disaient à l'époque, un peu plus tard, comment se fait-il que les Beatles chantent votre chanson en anglais? Ah là, je voulais tomber à terre.
Ah oui. Et vous êtes allé donc à New York, vous avez enregistré un album de chansons pour le marché américain. On va le remarquer, c'est vraiment assez extraordinaire de se retrouver 50 ans plus tard et de pouvoir entendre ces chansons. D'ailleurs, la prochaine porte bien son titre, parce qu'on pourrait poser la même question, « Who can I talk to about you? »
Ben oui, c'est le cas de le dire, oui. Alors, c'est ça, nous, on a travaillé, cette compagnie-là, VJ, avait à l'époque les Four Seasons. Les Four Seasons ont vendu au-delà de 200 millions d'albums. Alors, c'est phénoménal. Et donc, les gens qui travaillaient qui faisait partie des Four Seasons, plus Bob Crew qui était producteur, Al Kasha qui était producteur, t'avais Charlie Colello qui était le chef d'orchestre.
Puis Four Seasons, c'est l'illustre Frankie Valli.
Frankie Valli, oui. Mais bizarrement, Frankie Valli, lui, ne faisait que chanter. C'est Bob Crew, Bob Gaudio et puis Charlie Colello qui étaient les writers, les compositeurs, avec Al Kasha. Et là, ces gens-là nous ont fait une réunion à New York. On était emballés, hein. On n'en revenait pas. Hein. Tout le monde était « wow ». J'aimerais ça que René vive aujourd'hui pour avoir le plaisir d'avoir cet album-là dans ses mains, et Pierre aussi. Alors là, on s'est rendu à New York. Il y a eu une rencontre, un meeting de production, qu'ils appellent ça. Et là, tout le monde était là, même les musiciens, ça a été pris au sérieux, très au sérieux. Mais ils nous ont appris une méthode de travail qu'on est revenu au Québec par après, qui nous a servi à René et à moi. René s'en est servi pour Céline Dion après. Puis moi, je m'en suis servi, j'avais ma compagnie de disques à l'époque, où j'ai créé France Castel, Joël Denis et Belcanto. Alors, on est allé à New York, on a eu une première rencontre, on est revenu, on est retourné à New York, et là, ils ont fait l'enregistrement des tracks. Fallait qu'on soit là. Alors, on a été présent de tout ce qui s'est passé là, et on est retourné avec les tracks, on a pratiqué ici au Québec, puis on est retourné à New York faire les voix. Et ça a été mixé. Ça a été la première étape.
Et on saura dans quelques instants pourquoi on n'a jamais publié à l'époque cet album, mais on va donc poser la question « Can I talk to about you? »
I Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Alors, on vient d'entendre les Baronets avec une chanson inédite, publiée 50 ans plus tard, et bien sûr, les Beatles, All My Loving. Pourquoi les Beatles? Parce que vous l'avez bien expliqué, Jean, mais quand on écoute cet album, d'ailleurs, qu'il faut se procurer, parce que ça va devenir un album de collection, ça, littéralement.
Ouais.
Moi, la première écoute, je me disais, ça sonne très Beatles, mais avec la touche Baronets. Il y a quand même une petite différence.
Ah, c'est ça, mais c'était volontaire de la part du propriétaire de VJ. Parce qu'il était frustré parce que Epstein avait refusé de signer un contrat avec lui.
Okay.
Mais dans le fond, c'était de sa faute au propriétaire parce qu'il passait son temps à jouer à Las Vegas. Et c'est comme ça que la compagnie a fait faillite.
Donc, la compagnie dans laquelle vous aviez un peu misé, mais misé dans le sens que vous espériez sans aucun doute pouvoir percer le marché américain, était allé vous chercher.
Il est arrivé plus que ça. C'est qu'on a fait cet album-là avec ces gens-là. D'ailleurs, si on regarde dans l'Internet l'historique de ces gens-là qui ont travaillé avec nous, c'était des gars de 2, 3 puis 4 ans de plus vieux que nous. Alors, si tu regardes l'histoire d'Al Kasha, il a gagné deux Oscars à l'Academy Award avec Towering Inferno, Poséidon. Charlie Colello a travaillé avec les plus grands, Streisand, Ray Charles, Michael Jackson. C'était un incroyable, lui. Bob Crew, Bob Gaudio ont écrit Can't Take My Eyes Out of You. Ils ont écrit des chansons extraordinaires aussi. Alors, là, on est avec les meilleurs et le propriétaire, lui, est frustré de cette situation-là. Alors, il voulait avoir un groupe qui pouvait, sans être une copie des Beatles, qui ressemblait un peu au son des Beatles.
Est-ce que vous réussissiez très bien à faire?
Ah ben oui.
C'était dans vos gènes, pour ainsi dire.
C'est ça.
Écoutez, Céline, bien sûr, Céline Dion... n'aurait peut-être pas connu la carrière qu'elle a connue. Hein. Le destin aurait peut-être été complètement différent si vous aviez connu ce succès à l'époque.
Ah oui, ça c'est sûr.
Bon, on va l'écouter quand même. Et la chanson, c'est un peu comme si elle s'adressait à chacun de vous trois, même si Pierre et René sont disparus. La chanson a pour titre « On ne change pas ». Et on sent à travers ces chansons-là que les Baronets, 50 ans plus tard, n'ont rien changé.
Ah, je veux pas changer non plus.
On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul, les instincts d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des ailes et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Si tu crains là, tout près de l'apparence tremblante qui nous ressemble, on sait bien qu'il est là, on l'entend parfois. Sa rogue insolente qui s'entête et qui répète, on ne me quitte pas, on n'oublie jamais. On a toujours un geste. Qu'un instant de soir.